Kiosque Magazine.
Eh bien, bonjour à tous et à toutes, chers auditeurs, en ce beau lundi 22 juin. C'est l'été?
Oui, depuis hier.
Ah, et la voix féminine que vous entendez, elle appartient à qui? À Franceline Nieuviard.
Et je suis en compagnie...
de Serge Hamelin. Oui, et en cabine, nous avons...
Mathieu Tessier.
Alors, les tout-petits, c'est les vacances! Alors, on s'adresse aux tout-petits, on s'adresse aux un peu plus grands, on s'adresse aux beaucoup, beaucoup plus grands, on s'adresse à tout le monde. Et qu'est-ce qu'on va leur raconter ce matin? Eh bien, ce sont des histoires ou des articles qui ont été tirés à partir de magazines socioculturels.
Voilà. Alors, moi, je vais vous faire un peu de tourisme dans différents endroits du Québec.
Ouais.
Et je tire cet article de la revue Le Bel Âge de juin 2015.
Ouais.
Ça s'intitule « À voir ». Et puis, après la pause, bien, pour se reposer un peu, je vous parlerai du yoga. Pour se faire du bien, c'est aussi tiré de la revue Le Bel Âge de juin 2015.
Bon, alors, et moi, ben, je serai dans la revue Protégez-vous d'un bord à l'autre. Alors, trois articles tirés de la revue Protégez-vous. On va parler de pain tranché, on va parler de sortie estivale. C'est merveilleux.
Oui.
Alors, allez-y, Francine.
Non, je vous laisse la place.
Ah, c'est à moi, c'est vrai, mon Dieu Seigneur, on est mêlés ce matin. OK, c'est à moi. Alors, je vais vous parler. Avez-vous pris votre petit déjeuner?
Oui.
Bon, ben, c'est pas à vous que je parlais, c'est aux auditeurs.
Ah, bien, bien.
Mais quand même, oui. Alors, si vous n'avez pas pris votre petit déjeuner avant de mordre dans la tranche de pain que vous avez devant vous, eh bien... ici, dans la revue Protégez-vous, on a fait un test à l'épicerie sur les pains tranchés. C'est Catherine Crépeau et Clémence Lamarche. Je ne sais pas si elles ont goûté à tous les pains, là. Mais elles vont nous parler de la bonne fournée. La qualité des pains tranchés n'augmente pas au même rythme que l'offre. Moins d'un produit sur six mérite la mention « meilleur choix ». Alors, on a trouvé combien de sortes de variétés de pains tranchés dans les épiceries, me direz-vous? Aïe, aïe.
Aucune idée.
Alors, mettez un chiffre, allez-y.
12.
12. Alors, nous avons trouvé 399 variétés de pain tranché dans les épiceries. 109 de plus qu'en 2013. Imaginez-vous les étalages de pain que ça prendrait, l'espace que ça prendrait pour avoir tous ces pains. Alors, malgré les messages répétés des experts en nutrition sur l'importance de consommer des produits de céréales entières, les pains blancs représentent encore la moitié du marché. Et le quart des pains bruns ne répondent pas à nos critères de bon et de meilleur choix. Alors, c'est pas parce que c'est brun que c'est mieux.
Ben oui.
Alors, comment reconnaître un bon pain? Alors là, la question. Le type de farine utilisée est le premier critère à considérer dans la recherche d'un pain santé. Plus elle est complète, plus le pain sera nutritif, c'est-à-dire riche en vitamines et en minéraux, mais aussi en fibres et en composés antioxydants. C'est pourquoi nous n'avons retenu, parmi nos meilleurs choix, que des produits dont le premier ingrédient est la farine complète ou intégrale. Et cette farine contient toutes les composantes du grain, soit le son, l'endosperme et le germe. Pour la reconnaître, recherchez l'appellation « fait de farine de blé entier » suivi des mots « avec germe
okay. »,«
intégrale » ou « moulu sur pierre ». Il pourrait aussi s'agir d'une autre céréale entière comme l'épeautre. Oh, je ne savais pas que les épeautres étaient des céréales. Non. Enfin, l'épeautre ou le seigle. Il y a toutefois quelques exceptions qui ne nécessitent pas l'emploi de ces mots. La farine d'avoine est toujours intégrale, hein? Tout comme celle des légumineuses, soja, pois chiches, pois jaunes et de pseudo-céréales telles que le quinoa.
Okay.
C'est une pseudo-céréale, le quinoa. Alors, nous avons été moins sévères pour nos bons choix qui sont composés principalement de farine intégrale ou de grains entiers. La différence entre les deux, c'est que dans la farine dite de grains entiers, une partie du son ainsi que la totalité du germe ont été retirées. Et cela porte à confusion car celle-ci n'est finalement pas entière. C'est, la, C'est le cas notamment des pains portant l'allégation « farine de blé entier » selon l'appellation encadrée par le Règlement sur les aliments et drogues au Canada. Et pour porter ce nom, la farine doit renfermer au moins 95 % des composantes originales du grain de blé. Jusqu'à 5 % du grain peut être retiré, notamment pour prolonger la durée de conservation du produit.
Oui, oui. Tout ça, c'est subtil. Hein?
Les autres allégations sur les grains entiers ne sont pas réglementées. Les fabricants sont donc libres d'utiliser des termes tels que farine non blanchie, moulue sur pierre, ou encore farine de blé entier non traitée et non blanchie. Ce qu'il faut retenir, c'est que les pains, dont le premier ingrédient est la farine de blé, de Camut ou d'épeautre entière, constituent un choix santé et qui sont plus nutritifs que les pains blancs.
Ah oui.
Fibres, satiété et la régularité intestinale et réduisent les risques de maladies cardiovasculaires. Selon Santé Canada, les hommes devraient en consommer 38 grammes par jour et les femmes 25 grammes. Les meilleurs choix vous aideront à y arriver puisqu'ils en fournissent au moins 3 grammes par portion. En effet, les farines intégrales de blé ou d'autres céréales sont généralement plus riches en fibres que les autres puisqu'elles contiennent toutes les parties du grain. Le sarrasin et le quinoa en constituent également des sources intéressantes, de même que les graines comme le lin, le chanvre et le chia, ainsi que les légumineuses. Les pains dont la teneur en fibres est très élevée peuvent renfermer de l'inuline, des fibres de baies d'avoine, de la cellulose microcristalline ou de la méticellulose. C'est le cas notamment du pain fibre 100% céréales entières de Country Harvest. Il est bon celui-là. Qui fournit 12 grammes de fibres. Or, ces concentrés de fibres ne procurent pas les mêmes effets bénéfiques sur la satiété et le transit intestinal que les fibres provenant des grains entiers. Elles agissent cependant comme un prébiotique, favorisant la croissance et l'activité des bactéries intestinales qui sont bonnes pour votre santé. À l'inverse, nous avons trouvé des produits annoncés comme étant faits de blé entier, mais pauvres en fibres. Le pain de blé entier pur, tranché de homemade kosher, qui contient aussi de la farine blanche, en fournit 0 gramme. Oui. Le sel fait généralement partie de la recette de base du pain pour améliorer la texture de la mie, mais également pour lui donner du goût. Rappelez-vous toutefois qu'il vaut mieux modérer votre apport en sodium. Et avec ou sans gluten. Alors, il nous reste une minute. Je vais vous parler des meilleurs produits. Les tests pains tranchés, les meilleurs choix. Ça va? Prenez vos crayons.
Oui.
Tout le monde a vos crayons. Vous avez trouvé votre crayon?
Oui,
ça va.
Je peux écrire.
Une feuille de papier. Alors, le premier, il a zéro sodium. Oh là là. Food for Life de Ezekiel. Oh. Ensuite, il y a l'épi doré, qui est un pain de soja et millet. Okay. Ensuite, il y a Food for Life. Et maintenant, il y a l'autre aussi. Saint Méthode. Les grains, il est plus connu, lui, Saint Méthode. Les grains miches 100% blé entier. Il y a Bon Matin, multigrain et tournesol. Ça vous va?
Absolument.
Alors, bon appétit tout le monde.
Alors maintenant que vous avez pris un bon petit déjeuner avec le pain Saint Méthode ou autre...
Ben, je ne sais pas si on a eu le temps, mais en tout cas...
Oui, vous allez l'emporter avec vous.
Ah.
Je vais vous faire faire un tour du Québec avec 15 curiosités observées qu'il vaut la peine de découvrir. Alors ouvrez l'œil, car si certaines ne passent pas inaperçues, d'autres se font si discrètes que seul un œil exercé peut les repérer. Donc voici quelques pistes pour vous y aider. Et je vais commencer par la ville de Québec. À Québec, on trouve la Maison Kent. Située au 25 rue Saint-Louis, cette maison est une des plus anciennes de Québec. Plusieurs de ses occupants furent célèbres. Dyle Boost, le gouverneur de la Nouvelle-France, l'occupait en 1648. De Ramsay y signa la capitulation de Québec en 1759. Mais c'est au prince Édouard, duc de Kent et père de la reine Victoria, qu'elle doit son nom. Arrivé à Québec en 1791 avec le 7e régiment d'infanterie dont il était le commandant, le prince était accompagné de sa maîtresse française, Thérèse Bernadine de Montgenais, dite Madame de Saint-Laurent. Le couple occupa la maison de 1791 à 1794, y recevant ses amis, notamment la famille de Salaberry, avec qui le duc entretiendra une correspondance pendant plus de 20 ans, même après son départ de Québec. Le consulat général de France, qui occupait la maison depuis 1980, l'a récemment vendue. Ensuite, à Québec, la plus petite façade. La maison du 6 rue d'Anacona, dans le Vieux-Québec, possède la plus petite façade de toutes les demeures d'Amérique du Nord, à peine 3,7 mètres. Érigée en 1848 sur un terrain de forme irrégulière, elle est en réalité plus grande qu'il n'y paraît quand on la regarde de la rue, puisqu'elle profite du terrain plus large à l'arrière. Propriété des Ursulines qui la louent, la maison jouxte leur bâtiment conventuel. Ensuite, encore à Québec, la tour des Augustines. C'est dans l'aile du jardin du monastère des Augustines de l'Hôtel-Dieu de Québec, classé immeuble patrimonial, que l'on peut apercevoir le fameux tour des Augustines, espèce de porte tournante, l'ouvrage cylindrique en bois permettait aux religieuses cloîtrées d'échanger avec l'extérieur en toute discrétion. Quand en 1801, le gouvernement prend des mesures pour prévenir l'abandon des enfants naissants, les religieuses acceptent de s'occuper des poupons délaissés. Le tour allait connaître une nouvelle vocation. On y déposait incognito les enfants dont on ne pouvait s'occuper. Des messages épinglés aux vêtements faisaient état du désespoir des personnes que la misère ou les préjugés de l'époque acculaient à faire un tel geste. Aussi, à Québec toujours, le boulet de la rue Saint-Louis, un vestige du siège de Québec en 1759, comme le prétend la rumeur. Même si les Caléchiers continuent à raconter cette histoire, la réalité est tout autre. Le boulet, enserré dans les racines d'un vieil orme au coin de la rue du Corps de Garde, aurait plutôt eu une fonction pratique. Selon la Société historique de Québec, le fameux engin est tout simplement un chasse-roue qui servait à protéger le coin de la maison à l'angle de la rue. Des photos d'époque montrent qu'il était en place avant l'apparition de l'arbre, qui, lui, aurait environ 80 ans. Ensuite, encore à Québec, le tombeau de l'Aiglon. Comment expliquer que le mausolée destiné au fils de l'empereur Napoléon Ier se retrouve dans un cimetière de Québec? Pur hasard. Imposant, il était destiné au roi de Rome, mort à Vienne en 1832. Mais ce dernier fut finalement inhumé dans la crypte de Habsbourg. Il était le fils de Marie-Louise d'Autriche. Depuis, le mausolée était en attente d'une nouvelle vocation. Vers 1857, William Venner, commerçant puis banquier, un des hommes les plus riches du quartier Saint-Roch, achète le monument lors d'un voyage d'affaires en Italie et le fait transporter en pièces détachées, il va sans dire, à Québec. De style néoclassique, le mausolée reprend la forme d'un temple grec à péristyle dont les 6 colonnes corinthiennes sont surmontées d'un chapiteau orné de couronnes de laurier. Seule modification, au centre, une statue du Sacré-Cœur a remplacé celle de la divinité grecque originale. Le mausolée, qui appartient toujours à la famille Vénère, surplombe un caveau où deux grandes tentes de René Lévesque sont inhumées. Autre curiosité, encore à Québec, la tour Martello. Quelle surprise de retrouver dans le quartier Saint-Jean-Baptiste une mini-forteresse qui empiète sur la moitié d'une rue résidentielle. La tour Martello numéro 4, comme on la désigne, située rue Lavigueur, faisait partie au XIXe siècle d'un système de défense de l'Empire britannique qui comptait 196 de ses tours dans le monde. Des 4 qui furent érigées à Québec entre 1808 et 1812 pour protéger la ville d'une invasion américaine, 3 subsistent encore. 2 se trouvent sur les plaines d'Abraham, la 3e a été démolie en 1904 et la 4e est celle de la rue Levasseur. Elle a été occupée par une famille entre 1892 et 1907, puis elle est devenue un siècle plus tard le local d'une association médiévale qui l'utilisait pour remiser ses costumes et organiser des banquets. La tour, qui appartient à la commission des champs de bataille, est en cours de réfection et deviendra un centre d'interprétation en 2015. Encore à Québec, Confucius, oui.
Ah.
Oui. À deux pas de l'Assemblée nationale en plus, à l'intersection de la rue Georges V Est et de la Grande Allée Est, ne vous étonnez pas de trouver un beau chinois. Et pas n'importe lequel. Impassible, Confucius surveille la circulation. L'imposante statue en cuivre dévoilée en 1909 dans la capitale est un cadeau offert en gage d'amitié au Québec par le Shandong, province natale du philosophe. Voilà, on va prendre une petite pause musicale et je continuerai à vous lire quelques autres curiosités après cette chanson, je crois, de Félix Leclerc, « Le tour de l'île ».
Supporter le difficile et l'inutile, y a le tour de l'île, 42 000 de choses tranquilles pour oublier grandes blessures dessous l'armure. Été, hiver, y a le tour de l'île, l'île d'Orléans, l'île c'est comme Chartres, c'est haut et propre, avec des nefs, avec des arcs, des corridors, et des falaises. En février, la neige est rose, comme chair de femme. Et en juillet, le fleuve est tiède sur les battures. Au mois de mai, à marée basse, voilà les oies. Depuis des siècles, au mois de juin, partis les oies. Mais nous, les gens, les descendants de la Rochelle, présents tout le temps, surtout l'hiver, comme les arbres. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai, écoute encore. Clocher pointu, et dans les fonds des pâturages, de silence, des enfants blonds nourris d'azur comme des anges jouent à la guerre imaginaire. Imaginons l'île d'Orléans, un dépotoir, un cimetière. Parc à vidange, boîte à déchets, US parking. On veut la mettre en mini-jupe and speak English. Faire ça, l'île d'Orléans, notre fleur de lys. Mais c'est pas vrai, ben oui, c'est vrai, raconte encore. Sous un nuage, près d'un cours d'eau, c'est un berceau. Et un grand-père au regard bleu qui monte la garde. Il sait pas trop ce qu'on dit dans les capitales. L'œil vers le golfe ou Montréal guette le signal pour célébrer l'indépendance. Quand on y pense, c'est-y en France, c'est comme en France, le tour de l'île. 42 000 comme des vagues, les montagnes, les fruits sont mûrs dans les vergers de mon pays. Ça signifie l'heure est venue, si t'as compris.
Quelle magnifique chanson, hein, Serge.
Ah, moi je suis tout ébaubie et j'en tombe des nues.
Bien. Alors après l'île d'Orléans, on va passer, donc on va continuer les curiosités, on va aller sur l'île de Montréal. La première chose à voir, c'est le mur de Berlin. Vous n'étiez probablement pas à Berlin en novembre 89. Reste que vous auriez bien aimé le voir, ce fameux mur. C'est possible. La ville de Berlin en a offert un fragment à la ville de Montréal pour souligner le 350e anniversaire de cette dernière. C'est au Centre de commerce mondial que vous pouvez l'admirer, graffiti compris. Et vous pouvez voir aussi Mussolini. C'est l'artiste Guido Nincheri qui a réalisé la décoration de l'église Notre-Dame de la Défense dans le quartier de la Petite Italie. Peinte entre 1930 et 1933, la fresque au plafond de l'abside veut rappeler la signature des accords du Latran entre le Saint-Siège et l'État italien. Mussolini, bien en évidence, y figure sur son cheval. Avec la montée du fascisme, puis l'alliance germano-italienne, on peut se douter que la fresque a commencé à faire jaser. Comme bon nombre d'Italiens, Nincheri fut arrêté comme sympathisant. Après 3 mois, sa femme obtint sa libération en déposant des lettres qui démontraient que c'était à la demande des autorités religieuses qui menaçaient de ne pas le payer pour ses travaux qu'il avait dû exécuter le portrait du Duce. Alors maintenant, en Estrie, après Montréal, l'Estrie. On va d'abord voir la côte magnétique de Chartierville sur la 257 Sud, route qui va du village de Chartierville à la frontière américaine. Il se produit un drôle de phénomène. De la magie, disent certains. Au volant de son auto, le conducteur appuie sur l'accélérateur pour remonter la côte, du moins c'est ce qu'il croit. En réalité, c'est une illusion d'optique. Toutes les côtes magnétiques ont les mêmes caractéristiques. Un horizon occulté, ici il est caché par la végétation, et une pente abrupte. Sans ligne d'horizon, il est en effet très difficile de juger de la pente d'une surface. La réalité, c'est que lorsque le conducteur pense descendre, il monte. L'inverse est aussi vrai, donc pas de mystère, tout s'explique par un phénomène optique. Toujours en Estrie, la salle d'opéra et la bibliothèque Haskell. À Stanted et à Derby Line, Québécois et Américains font bon ménage, à un point tel qu'ils se partagent un édifice peu banal, érigé à cheval sur la frontière qui les traverse. C'est en 1904 que Martha Stewart Haskell décide, pour honorer la mémoire de son mari, de construire au coût de 50 000 $ un édifice en granit qui abriterait une bibliothèque et à l'étage une salle d'opéra. On ne trouve un cas semblable nulle part ailleurs. La porte principale de la bibliothèque est située dans un pays, les États-Unis, et tous les livres dans un autre, au Canada. Dans la salle d'opéra, les spectateurs se trouvent du côté américain de la frontière, alors que la scène est en sol canadien. La bibliothèque, avec ses canapés et ses cheminées, de même que la salle d'opéra, sont toujours en activité plus d'un siècle plus tard. L'orchestre I Musici de Montréal et le Vermont Symphony Orchestra font régulièrement partie de la programmation qui s'étend du printemps à l'automne. Maintenant, on va plus loin en Abitibi-Témiscamingue, la forêt enchantée de Ville-Marie. C'est dans le parc historique national de Fort-Témiscamingue, poste de traite en pays algonquin, que l'on trouve une forêt de touillas occidentaux, que l'on appelle à tort cèdre au Québec. Vieux d'environ 150 ans, ces arbres immenses qui sont exposés à des vents violents présentent des formes étranges, tellement tourmentées qu'on a donné à cette forêt le nom de forêt enchantée. Et on retourne dans le Charlevoix. D'abord au Jardin des Quatre Vents. Situé à la Malbaie, il compte parmi les plus beaux jardins privés du monde. Un tantinet chauvin en a tendance à utiliser le superlatif allègrement, mais cette fois, la presse internationale, le New York Times y compris, confirme ses dires. Les Jardins des Quatre Vents sont l'œuvre de Francis H. Cabot, financier américain, passionné d'horticulture, dont la famille passe depuis 1902 les étés à la Malbaie. Les 24 petits jardins qui sont tout simplement magnifiques s'étendent sur 20 acres et sont ouverts au public 4 fois par an sur réservation. Comme les billets s'envolent rapidement, on réserve tôt par l'entremise du centre écologique de Port-au-Saumon à qui sont versés les frais d'admission. Coût de la visite, $30. Un reçu de charité est émis, la visite d'une durée de 2h30 s'effectue en compagnie d'un guide. Vous pouvez vous adresser au www.cepas.qc.cq. Alors voilà, c'était ce dont je vous ai parlé, était dans la revue Le Bel Âge, juin 2015. C'était écrit par Michel Dubreuil dans la revue Le Bel Âge. Donc.
Vous écoutez Kiosque Magazine.
Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Mais si vous avez envie de courir, eh bien, on a un article très intéressant pour vous dans le Protégez-vous. C'est course à pied. Oui. Mesurez vos capacités, c'est le titre de l'article. Mais avant ça, avant de courir, il faut choisir les bonnes chaussures. J'en avais parlé la semaine dernière, mais je ne m'étais pas rendu là. On va en rajouter un petit peu. Semelle mince ou coussinée?
Je ne sais pas.
Chaque type a ses adeptes, mais les études ne permettent pas encore de déterminer avec certitude lequel est préférable pour prévenir les blessures. Les grosses chaussures plus coussinées et dont le talon est plus élevé favorisent l'attaque par le talon durant la course. Une technique qui sollicite davantage les articulations. À l'inverse, les souliers à semelle très mince ou minimaliste incitent à déposer d'abord l'avant-pied, ce qui réduit les risques de blessures aux genoux, aux hanches et au dos, mais augmente les possibilités d'inflammation de la cheville, de fracture du pied et d'atteinte au tendon d'Achille.
Oui, rien n'est parfait.
Ce type de chaussures demande plusieurs mois d'adaptation. Car il vous oblige à modifier votre façon de courir. Et si vous les essayez, les experts recommandent de débuter avec 1 minute de course, puis d'en ajouter une toutes les semaines. Une transition trop rapide augmenterait le risque de blessures comme la fascite plantaire ou la fracture du pied. Selon nos experts, les débutants devraient choisir des chaussures à talons ni trop minces, ni trop coussinées, car elles protègent les pieds tout en assurant une certaine flexibilité et en conservant la sensation du contact avec le sol. Bon, alors voilà. Donc, on s'en va maintenant mesurer vos capacités. Oh, et faites à noter, il y a eu 483 courses organisées, répertoriées au Québec en 2014, et il y a plus de 247 081 coureurs qui y ont participé. Ouais. Ça fait du monde, ça, madame.
Ça fait du monde.
T'en es, ça, des pieds qui courent. Alors, c'est pas pour rien qu'on vous parle de la course à pied. Ça devient très populaire, hein, la course à pied. Et ça coûte pas grand-chose, sinon...
des bonnes chaussures.
Ouais, une centaine de dollars quand même. Hein, mais quand même, bon, c'est pas... un petit T-shirt, mais tu sais, T-shirt. Bon, pas trop cher. OK. Vous souhaitez devenir un meilleur coureur? Eh bien, il y a un test permanent de déterminer votre vitesse maximale aérobie. Ça, c'est VMA. Vitesse maximale aérobie, qui pourrait vous aider à progresser. Marianne pratique la course à pied quelques fois par semaine. Et son objectif, se sentir bien, certes, mais surtout s'améliorer. Lorsqu'on est rendu à un certain stade, c'est intéressant de se comparer à soi-même et aux autres, confie cette résidente de Québec. La jeune trentenaire songe à passer un test d'évaluation de sa condition physique. Je veux avoir l'heure juste sur ma forme et sur l'intensité à laquelle je dois courir pour progresser. Et comme il existe plusieurs tests, elle ne sait trop comment choisir. Voici donc quelques conseils. Un bon test doit vous indiquer votre VMA, dont on parlait tantôt. Et cette donnée rend compte de la vitesse en km/h où votre consommation d'oxygène atteint sa valeur maximale. Elle permet ensuite d'établir les cadences auxquelles vous devez vous entraîner pour progresser. Par exemple, pour pouvoir courir sur de longues distances, vous devez vous entraîner à une intensité qui correspond à 70 % de votre capacité. Si votre VMA est de 14 km à l'heure, votre vitesse devrait être de 10 km à l'heure. Pour courir plus rapidement, vous devrez vous entraîner à 100 % de votre VMA et voir la dépasser. Connaître votre VMA est donc important, puisque c'est sur elle que se base la majorité des plans d'entraînement en course à pied. Je ne savais pas, moi. Hein? VMA, le saviez-vous, vous?
Non,
eh bien, maintenant,
pas.
On le sait. C'est bien. Vous comptez devenir membre d'un centre sportif? Ne laissez pas l'évaluation de votre condition physique entre les mains du premier entraîneur venu. J'ai un préjugé favorable envers les endroits qui embauchent des kinésiologues, qui sont des professionnels de la santé spécialistes de l'activité physique, lance Guy Thibault, docteur en physiologie de l'exercice et auteur du livre « En pleine forme, conseils pratiques pour s'entraîner et persévérer ». Ces professionnels vous aideront à déchiffrer les résultats obtenus lors de votre test d'endurance. Ça ne sert à rien de savoir que vous avez 17 km/h de VMA si vous ne savez pas ce que ça veut dire, hein? Ni comment l'utiliser dans votre entraînement.
Oui, bien sûr.
Tranche Claude Lajoie, professeur-chercheur au laboratoire de physiologie de l'exercice de l'Université du Québec à Trois-Rivières. N'hésitez pas à leur demander conseil. Alors, il y a un test maximal de 5 minutes. Il consiste à franchir la plus grande distance possible en 5 minutes. Le résultat peut ensuite être converti en VMA à l'aide d'une simple formule mathématique. Il y a calculé votre VMA, ça existe. L'avantage de ce test, il donne des résultats réalistes. Petite difficulté, si vous êtes débutant, vous devez gérer votre effort, c'est-à-dire courir assez rapidement, mais pas trop, afin d'être capable de tenir jusqu'à la fin. Il y a le deuxième test, c'est le test de Cooper. Le saviez-vous, lui? Non, on n'est pas au courant de ça. Ensuite, il y a le test de l'Université de Montréal, le TPUM. Alors ça en fait des tests. Bonne course à pied.
Les yeux remplis de pluie, les mains. Baby, just bien faire. Quelques gouttes d'eau dans la rivière. Rien ne sert de courir. Tant pis, baby, je ne suis plus le même. On peut danser assis tout.
Alors, si vous n'êtes pas adepte de la course à pied, pour se sentir bien, il peut y avoir le yoga. Je vais vous lire un article qui s'intitule « Le yoga pour se faire du bien ». Signe des temps, que ce soit pour mieux faire face au stress ou mieux se sentir bien dans sa peau, de plus en plus de gens de tous âges et de tous milieux pratiquent le yoga. Je cherchais une activité qui me ferait bouger, mais pas de façon trop agressive. J'ai découvert les courtes démonstrations de yoga données par Lynn Saint-Roch dans La Presse Plus. Ça correspondait à ce que je voulais, dit Dominique Blanchard, agronome. Elle s'est donc inscrite au cours du studio Vert Prana à Montréal à l'automne dernier, 18 mois après avoir pris sa retraite. J'aurais dû le faire avant. L'endroit m'a tout de suite plu. C'est chaleureux, les gens sont sympas, on rigole, on se sent bien. J'ai d'abord suivi le programme d'essai de 3 mois et maintenant un abonnement illimité au cours pour les 60 ans et plus. Elle y apprend le Hatha Yoga, le type de yoga le plus connu en Occident. Ses postures de base, plutôt classiques, font travailler les muscles, les articulations et les organes. Ça aide vraiment à garder sa souplesse et à améliorer son équilibre, affirme Madame Blanchard qui précise « Je suis souple, mais je n'ai pas d'équilibre ». Or, je m'améliore peu à peu. Je réussis à me tenir sur une jambe quelques secondes de plus qu'avant. Et quand on a de la difficulté à maintenir une posture, Suzanne Ross, la professeure, nous propose des appuis, blocs ou coussins. Elle voit jusqu'où on peut aller. Il n'est d'ailleurs jamais question de compétition ou de performance. Les limites individuelles sont respectées et chacun y va à son rythme. On ne se rend pas compte sur le champ, mais peu à peu, on se sent beaucoup mieux. Elle suit 4 cours de 90 minutes chaque semaine, dont un de yoga flow où les postures s'enchaînent plus rapidement. La variété de types de cours et de postures lui plaît énormément. Certaines postures sont plus exigeantes, d'autres moins, mais toutes font du bien. Et même s'il faut parfois travailler fort pour en maintenir une, on sort des cours complètement détendus. Et le lendemain, on a mal nulle part, signale-t-elle presque étonnée. Cette activité l'a tellement accrochée qu'elle a décidé de la pratiquer aussi chez elle. Je vais en faire une habitude le matin. Je vais aussi apporter mon tapis lors de mes prochaines vacances. À la fois relaxante et dynamique, cette discipline lui procure beaucoup de bien-être. Et c'est ça le yoga, se faire du bien. Se faire du bien physiquement et mentalement. Difficile de bouder cet apport selon elle. À notre époque hyperactive, il est difficile de faire le vide. Notre cerveau est toujours captivé par mille et une choses. Avec le yoga, on apprend à rentrer en soi, à prendre conscience de son corps. On réussit à se concentrer sur soi et à faire le vide. Ça apaise. C'est le bon âge pour pratiquer le yoga. Il semble que oui, même à 60 ans. Dans notre groupe, on sait qu'on prend de l'âge. L'idée est de bien le faire, de devenir de bonnes vieilles, comme on dit notre prof, rigole Dominique. Alors, où on trouve des écoles de yoga partout au Québec. Les coûts varient d'une école à l'autre selon le programme choisi. Plusieurs offrent des forfaits et des classes d'essai et parfois des réductions pour les aînés. Au niveau du matériel, il faut peu de choses. Les vêtements, on les choisira confortables et légers, tels que t-shirts et pantalons élastiques. Il faut un tapis, il en existe plusieurs qualités. Et puis, vous pouvez lire sur le yoga. Le premier livre qui est conseillé dans cet article, c'est « À chacun son yoga » par Victoria Woodhall et Jonathan Satin, qui présente différents styles de yoga. C'est accompagné d'un DVD, c'est aux éditions de l'Homme, et ça permet de s'initier à la maison. Et il y a aussi « Le yoga pour les nuls » par Georg Fursten aux éditions First. Alors, c'était un article écrit par Marie-Josée Lacroix dans Le Bel Âge, juin 2015. Autre curiosité, dans un camion près de chez vous, après les camions de cuisine de rue, c'est au tour des camions boutiques de faire leur apparition à Montréal. Plus besoin de courir les magasins pour dénicher la parfaite petite robe ou le bijou branché. Des véhicules avec présentoir, salle d'essayage et caisse enregistreuse vont chercher les clients là où ils se trouvent, notamment dans les rues, les parcs et les lieux des festivals. Le concept a vu le jour il y a quelques années à Los Angeles. Il existerait aujourd'hui pas moins de 500 camions boutiques aux États-Unis selon l'American Mobile Retail Association. Voici trois camions boutiques à découvrir à Montréal cet été. Le premier, c'est la Montréalaise Atelier. Dans son camion bleu marine, la créatrice montréalaise Sabrina Barilla promène sa collection de t-shirts et de chandails bien connus dans les marchés d'artisans et les festivals de la métropole. Le deuxième camion, Nomade Boutique Mobile, fondé par la styliste de mode Mademoiselle Nana, Nomade abrite les créations de plusieurs designers locaux de vêtements et d'accessoires. Le camion turquoise, celui-ci, se déplace gratuitement dans un rayon de 40 km de Montréal pour un minimum de 8 clients. Coven Boutique Mobile, c'est le projet de fin d'études de 5 finissantes de l'école de mode de l'UQAM. Leur camion trimballe des vêtements, accessoires et produits pour le corps d'une douzaine de marques québécoises dans les manifestations culturelles montréalaises. Voilà, c'était donc une curiosité que j'ai trouvée dans l'actualité de juillet 2015.
Abe Sama Faga, Abe Mali Faga, Abe Girafu Ube Faga, Abe Sheel Faga, Abe Mali Faga, Abe Animo Ube Faga, Mobili Kolo Netafe, Netafe, Mobili Kolo Netafe, Amani, Netafe, Mobili Kolo Netafe,
Le long des longs camions sauvages, le monde est mon camion sauvage. Le long des longs camions sauvages, le monde est mon camion sauvage. La route est longue, mes pieds sont lourds et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route. Le long des longs camions sauvages, le monde est mon camion sauvage. Monde cassé, frein fatigué, le long du long serpent blanc éblouissant. Tombe les kilomètres, le long des longs camions sauvages. Le monde est mon camion sauvage. Mort les poulets, mort les enfants, mort les girafes, mort les éléphants. Le long des longs camions sauvages, le monde est mon camion sauvage.
Abe Sheel Faga, Abe Sama Faga, Abe Mali Faga, Abe Wolo Faga, Girafu Bebe Faga. Muovi di colontighi, i te feramine. Muovi di colontighi, i te feramine. Mobili kolo mani, mobili kolo e, mobili kolo mani, mobili kolo e, mobili kolo mani e.
Le jour se lève comme tous les jours sur mon camion et mes paupières lourdes comme du plomb s'écrasent sur la route et. Le long des longs camions sauvages et. Le monde est mon camion sauvage
et. Mobili kolo net à fait et. Mobili kolo mani et.
C'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Économique, c'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic, c'est la panique en Afrique. Panique en Amérique, panique aux fanatiques. Tanidic, tanidic, c'est la panique, panique, panique. Sur le périphérique, panique, panique, panique. Trop de trafic.
Eve yala yala, kayala yala, kademi selu ufala. Ebe yala yala, kayala yala, kamali faga. Ebe yala yala, kayala yala. Mwabili kolontigi, ika feremine. Mwabili kolontigi, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine. Tafe, tafe, ite feremine.
Kuru, sigirati, alimati, bon, bon. Kuru, sigirati.
Eh bien, l'été a ouvert ses portes pas plus tard qu'hier. Eh bien, vous voulez faire des sorties, étant donné que la porte est ouverte. Des sorties estivales et vous avez 10 trucs pour économiser. OK? Voici nos conseils pour vous permettre de sortir en famille cet été sans vous ruiner. C'est dans le Protégez-vous. Apportez votre lunch. Hein? Bonne idée. Les repas peuvent rapidement faire grimper la facture d'une sortie en famille. À 10 $ par personne pour un repas de restauration rapide, ce sont déjà 40 $ d'économie pour une famille de 4 si vous apportez votre pique-nique. Hmm? Malheureusement, ce n'est pas possible partout. Par exemple, la ronde.
Eh oui.
Interdit l'entrée avec de la nourriture. Ah, quand même. Il y a juste là. Procurez-vous un abonnement annuel. Par exemple, le forfait familial annuel de 89 $ du Musée canadien de l'histoire à Gatineau, se rentabilise dès la troisième visite et il donne 25 % de rabais sur le stationnement. Bon. Et payez moins cher au musée. Dans plusieurs musées, l'entrée est gratuite ou à tarif réduit certains jours de la semaine. Ah. Par exemple, l'entrée au Musée national des beaux-arts du Québec, situé dans la capitale nationale, est à demi-tarif les mercredis de 17 h à 21
h. Oui, oui.
Et arrivez plus tard. Par exemple, les grands parcs aquatiques offrent tous un rabais de 10 à 20 pour une entrée après 14 heures ou 15 heures. Ouais, et l'hiver, c'est gratuit. Achetez vos billets en ligne. Les parcs aquatiques Ski Bromont et Mont-Saint-Sauveur proposent également des rabais d'environ 20 % si vous achetez vos billets la veille sur Internet. Ah, plein de trucs. Présentez votre carte CAA Québec. Les membres de cette organisation obtiennent des rabais dans plusieurs institutions, notamment 5,50 $ de réduction pour l'entrée familiale au Biodôme de Montréal, au Jardin botanique de Montréal, qui inclut l'accès à l'Insectarium de Montréal et au Planétarium Rio Tinto Alcan. Utilisez vos cartes à points. Plusieurs programmes de fidélisation permettent d'échanger des milles ou des points contre des sorties. Par exemple, vous pouvez obtenir l'entrée au Musée canadien de l'Histoire à Gatineau pour 250 000 Air Miles par personne. Utilisez des coupons rabais. Vous trouverez des bons de réduction et des promotions pour une grande variété d'activités familiales sur des sites comme passeportvacances.com et québecvacances.com et les sites d'achat groupés tels que Twango, ah ben oui, Vie urbaine et Groupon sont également des incontournables pour les chasseurs d'aubaine. Procurez-vous la carte Accès Montréal.
Ah oui, c'est très intéressant.
Ben oui. très abordable, 8 $ pour la première carte, 7 $ pour la deuxième et 6 $ pour les autres, pour un total de 27 $ pour une famille de 4 personnes, par exemple. Cette carte offre exclusivement aux résidents de Montréal, permet d'obtenir des rabais dans une centaine de commerces et d'institutions comme le Musée des beaux-arts de Montréal et le Zoo Écomuséum situé à Sainte-Anne-de-Bellevue. Et utiliser le transport en commun. Ainsi, vous n'aurez pas de stationnement à payer et la présentation d'un titre de transport en commun peut vous faire épargner sur le prix d'entrée à certains endroits. Ah, ça, je ne savais pas.
Moi non plus.
Par exemple, en présentant une carte de la Société de transport de Montréal, vous économiserez 4 $ sur le tarif familial au Biodôme de Montréal, au Jardin botanique de Montréal, qui inclut l'accès à l'Insectarium de Montréal et au Planétarium, comme on le mentionnait tantôt. Et la Société de transport de l'Outaouais et le réseau de transport de la capitale permettent aussi d'obtenir des rabais pour certaines activités. Alors, quelques activités ici. On en avait parlé la semaine dernière. Il y a l'Exotarium. En avez-vous entendu parler de l'Exotarium? C'est spécial comme nom. C'est un jardin zoologique privé entièrement consacré aux reptiles. Amateur de serpents.
Et il se trouve où?
De crocodiles, lézards, grenouilles et autres animaux à sang-froid. Dans votre chambre à coucher? Non. À Saint-Eustache.
Ah oui, c'est pas très loin.
Dans les Laurentides? Ben non, ça coûte 35 $. Puis, il y a le centre de découverte du milieu marin. Ouais, mais celui est un peu loin, par exemple. Il est aux Escoumins, sur la côte nord. Ensuite, il y a le centre d'interprétation des mammifères marins. C'est beau, ça. Ça, c'est Tadoussac. C'est une belle région à visiter durant l'été. C'est magnifique. Et le centre présente une vaste collection de squelettes de baleines. Je ne savais pas que ça existait, moi, des squelettes de baleines. Dont celui d'un cachalot de 13 mètres, ainsi que des films exclusifs sur ces mammifères du Saint-Laurent. Ça, c'est à Tadoussac. Et pour notre dernière minute, il y a le Centre de la biodiversité du Québec, hein, à Bécancour. C'est une visite guidée permettant de voir des serpents, des tortues, des loutres, des grenouilles, des poissons, des ratons laveurs et autres spécimens vivants. Et puis, bien sûr, il y a le Jardin botanique et l'Insectarium de Montréal. Je parle pour les gens de Montréal, c'est pas loin. C'est vraiment très agréable, le Jardin botanique. Vraiment, vraiment. Et puis, on n'y va pas, on oublie, hein, mais c'est à portée de notre porte. C'est à notre porte une trentaine de jardins thématiques et 10 serres d'exposition sur un terrain de 75 hectares. L'Insectarium rassemble, quant à lui, quelques 250 000 spécimens de bibittes, d'insectes. Très beau à voir. Alors, et voilà, c'était notre émission, Kiosque Magazine. Ah, on a le temps pour des brèves. Ben, allons-y, allez-y.
Alors, j'en ai une encore sur le tourisme. C'est en Gaspésie, le Grand Rassemblement. C'est à Sainte-Flavie, l'artiste Marcel Gagnon qui a sculpté 80 personnages grandeur nature qui forment le Grand Rassemblement. Un ensemble impressionnant où quelques sculptures dressées sur la plage sont constamment visibles, alors que la majorité d'entre elles, installées dans les eaux du fleuve, comme pour faire une procession, apparaissent ou disparaissent au gré des marées. Ça s'appelle donc le Grand Rassemblement à Sainte-Flavie, aux portes de la Gaspésie.
Intéressant. Alors, un petit coin de rue aux États-Unis, les défenseurs des droits de personnes itinérantes militent à Washington pour que des toilettes publiques propres, sûres et accessibles en tout temps voient le jour dans la capitale américaine. Et pour mener à bien cette campagne, les militants ont travaillé main dans la main avec des sans-abri. Et c'est une première sur le continent. Des toilettes similaires avaient déjà été implantées dans d'autres villes, comme à Portland, Oregon, où le concept est né. La Portland Loo a d'ailleurs déjà remporté un grand succès à l'extérieur des États-Unis. Après leur installation à Victoria, en Colombie-Britannique, ces trônes publics ont même été élus les meilleures toilettes du Canada. Alors, c'est bon, ça. En avez-vous une autre, vous, une brève? Ben moi, oui. Mettre les points sur les i. Quand on habite dans un bidonville, chaque jour peut s'apparenter à une véritable lutte pour la survie. Et les femmes de Katanga, un des quartiers les plus défavorisés de Kampala, le savent mieux que personne, c'est la rage au ventre qu'elles sont de plus en plus nombreuses à se lancer dans la boxe pour se défendre de la violence qui fait rage et peut-être se sortir de leur misère. Peut-être qu'elles vont venir se prendre contre David Delumieux, peut-être qui est notre nouveau champion de l'IBF, poids moyen. Alors, c'est tout pour nous. Merci beaucoup, Franceline Nieuviard. Merci beaucoup, Mathieu Tessier. Et merci beaucoup, Serge Hamelin, c'est moi.